On se dit tout sur France Bleu, Vanessa Lambert.
Bonsoir à tous, j'espère que la journée a été bonne, que la semaine a été bonne aussi. Et avant de commencer le week-end, on va se poser un petit peu comme tous les soirs, on va papoter ensemble. Vous avez la parole entre 20h et 22h comme chaque soir et on écoute vos histoires autour d'un thème. Le thème ce soir, c'est l'Italie. On a souvent beaucoup d'idées reçues sur l'Italie et les Italiens, des clichés aussi. Le mieux, vous savez quoi ? C'est de vous donner la parole. Les Italiens de France, les Français d'Italie, les amoureux de l'Italie. On peut parler cuisine, musique, football, tout est possible. L'Italie, c'est le sujet d'On se dit tout jusqu'à 22h et c'est parti.
Le soir sur France Bleu, on se dit tout.
Il est resté dans le studio avec nous quelques minutes de plus, c'est notre collègue Arnold Derek. Parce que oui, tout le monde ne le sait pas forcément, mais Arnold, vous êtes un... une encyclopédie, on peut le dire, du cinéma.
Non, faut pas commencer comme ça, c'est pas vrai. Si. Non, j'adore juste ça.
Grand
c'est
amateur de cinéma, oui. Et notamment de cinéma italien.
Ah oui, beaucoup.
Alors, à partir de quand on parle de cinéma italien ? Est-ce que c'est en même temps que la naissance du cinéma ? Ça vient plus tard ?
Oui, alors c'est là, il y a un débat de puristes hein, dans lequel je vais pas m'immiscer, mais on va dire en gros que c'est à partir du muet où là, les Italiens ont commencé réellement à faire des productions énormes, ils se tiraient la bourre un peu avec Hollywood, si vous voulez, dans la réalisation de péplum absolument gigantesque sur tous les thèmes. Les Ben-Hur, les trucs comme ça. Donc vraiment là, on a commencé à assister à un cinéma qui était en développement et qui va continuer tout au long de plusieurs décennies.
Alors, il y a les péplums. Est-ce qu'il y a d'autres mouvements ? Est-ce que vraiment on peut mettre le cinéma italien dans différentes catégories, différentes mouvances ?
Ils ont, c'est par cycle, hein, c'est comme toutes les choses. Les Italiens, comme dans d'autres pays, ont eu leur période muette, ça on l'a dit. Il y a eu la guerre avec Benito Mussolini qui a fait une bonne chose dans sa carrière, c'est de construire les studios Cinecittà de Rome, où ont été tournés énormément de films italiens et de films étrangers. Il y a eu, durant la période fasciste, ces films dits de téléphone blanc. Pourquoi ? Parce que ça représentait la bourgeoisie qui en était équipée. C'était des comédies qui faisaient un peu oublier les tracas du quotidien. Et puis ensuite est arrivé, après la guerre, le fameux néoréalisme, dont Roberto Rossellini est l'un des étendards avec sa trilogie Rome, ville ouverte, Paisa et Allemagne année zéro. On trouve également Vittorio De Sica, qui fait lui un cinéma beaucoup plus proche du peuple, le voleur de bicyclette hein, par exemple. Il y a également la Strada de Fellini, parce que Fellini, avant de se livrer dans les délires l'onirisme, lui il a commencé également avec des choses très ancrées dans le social, très ancrées dans ce qui est le quotidien des gens, et la Strada en est un merveilleux exemple. La comédie italienne arrive après, il faut bien se dérider un peu, en fer de lance. Eh bien, il y a Pietro Germi, c'est pas le plus connu des réalisateurs de comédie italienne, mais c'est celui qui l'a lancé avec un film que je vous recommande absolument, qui est magnifique, qui s'intitule Divorce à l'italienne, avec Mastroianni qui incarne une espèce de macho qui en
Marcello.
Prend mais plein la figure. C'est vraiment le symbole phallique par excellence, qui se fait complètement ratatiner dans ce film. Tout le monde n'a pas vraiment compris le sous-texte à l'époque, mais c'est un film absolument réjouissant. Il y a également Le Pigeon de Mario Monicelli, ou encore Le Fanfaron de Dino Rizzi avec Vittorio Gassman et Jean-Louis Trintignant. Ça célèbre la nonchalance avec deux types qui partent à bord d'une voiture de sport, qui quittent Rome, qui est désert en plein mois d'août. Et puis, on va voir que cette nonchalance a des conséquences également, qu'il n'est pas bon d'être trop nonchalant dans la vie. Et puis, on parle également de Luigi Comencini, avec ce film absolument superbe, qui n'est pas le plus connu, encore une fois, L'Argent de la Vieille, où des pauvres dans des quartiers très pauvres d'une ville en Italie, pardonnez-moi, je ne me rappelle plus laquelle, font des parties de poker avec une vieille bourgeoise, dans l'unique espoir, c'est de la plumer, de lui soutirer tout son argent, et celui croyait bien qu'il croyait prendre comment dire. Ensuite vient la politique, 1968 passe par là avec ses mouvements de révolte, les mouvements sociaux, la violence également. Deux films hein, avec l'excellent acteur Gian Maria Volonté se détachent. Il y a La classe ouvrière va au paradis, et puis Enquête sur un citoyen au-dessus de tout soupçon. C'est un film policier qui raconte l'histoire d'un commissaire qui tue une call girl et qui s'en sort.
Vous n'avez pas parlé des westerns,
j'y arrive. Alors ça appartient au cinéma de genre. Les Italiens ont toujours été très très forts. Le western italien, il y a trois noms à retenir, c'est les trois Sergio. Sergio Leone, Sergio Corbucci et Sergio Solima, notamment ce dernier qui a fait un chef-d'œuvre qui s'appelle Le Dernier Face-à-Face, où un prof, un philosophe arrive au Far West, il croise un bandit et leurs personnalités vont s'interchanger. Il n'y a jamais qu'un seul genre dans le film italien. Il y a du, il y a une satire sociale, il y a une satire politique, il y a un film d'action parce que c'est un western. C'est un film absolument formidable. Deux mots sur le giallo, qui est un cinéma de genre qui est inspiré des fumetti. Ce sont des, la littérature de gare qu'on pouvait s'acheter comme ça pour faire le voyage. Et ben, ils sont adaptés en film. Ça donne des films entre horreur, entre films policiers et horreur, dont les plus grands représentants sont les réalisateurs Mario Bava ou Dario Argento dans par exemple il a réalisé L'oiseau au plumage de cristal, qui est un chef-d'œuvre du genre.
Et puis, et à part ça, vous n'êtes pas une encyclopédie du tout,
hein? Non, pas du tout, pas du non tout. Non, ça va. Et puis on peut pas clore sans parler de Fellini, hein, évidemment. Ça, c'est la tous les films d'auteurs italiens.
Fellini, et puis les femmes, parce que oui, les plus belles actrices sont quand même les actrices italiennes.
Voilà, la plupart du temps on les retrouve chez Fellini, comme Claudia Cardinale dans 8 et demi, comme Monica Vitti dans La Ventura d'Antonioni, comme également dans une certaine mesure Annie Girardot qui est dans Rocco et ses frères de Luchino Visconti. Donc les Italiens vraiment ont masterisé le cinéma durant, allez, on va dire 3 à 4 bonnes décennies. Arrivent les années 80, la crise, l'avènement de la télé, là c'est, ça devient quasiment impossible de trouver des fonds. Seuls subsistent les très grands réalisateurs, mais qui finissent par mourir un par un. Fellini s'en va. Il y a également Sergio Leone qui meurt à la fin des années 80. Mais les années 90, et c'est ça qui est bien aussi, apportent une... il y a une émergence de la nouvelle vague, dont le réalisateur Nanni Moretti.
Et aujourd'hui, donc
aujourd'hui, c'est en train de renaître. C'est en train de renaître, mais via des comédies romantiques. Bon, c'est un peu le tout venant. Il y a rien de très très intéressant, hormis certaines exceptions. L'âge d'or du cinéma italien est malheureusement bel et bien pour le
derrière
moment
nous
éteint.
Voilà. Ça donne envie d'aller se replonger dans les vieux films italiens,
faut,
grâce à
sûr
vous. Merci beaucoup, Arnold.
Avec plaisir.
On vous retrouve lundi soir maintenant, et nous, on va continuer de parler d'Italie tous ensemble avec vos souvenirs, vos témoignages. J'en suis tout émue, moi, du cinéma italien. Et surtout avec des Italiens qui habitent en France, des Français qui habitent en Italie aussi. On est ensemble jusqu'à 22h sur France Bleu.
Le soir sur France Bleu, on se dit tout.
Et jusqu'à 22h, on se dit tout, un petit air d'Italie. On écoute vos histoires, vous qui avez quitté l'Italie pour la France, vous qui avez quitté la France pour l'Italie. On parle de cuisine, de cinéma, de football, de musique aussi, tout est possible. Et c'est une amoureuse de l'Italie qui est avec nous maintenant, c'est Sophie de Paris. Bonsoir Sophie.
Bonsoir Vanessa.
Ça a commencé comment, votre histoire d'amour avec l'Italie ?
Alors, mon histoire d'amour avec l'Italie, elle remonte très très loin, elle remonte à l'enfance. Puisque j'ai une maman qui est déjà elle-même passionnée d'Italie et qui était partie faire des études en Italie quand elle était jeune. Et j'ai eu l'occasion, quand j'étais petite, de passer des vacances en Italie l'été. Et donc, j'ai commencé à développer un amour pour la langue italienne. Et c'est une langue que j'ai apprise ensuite au lycée. J'ai eu la chance de tomber sur un professeur d'italien passionnant et passionné qui m'a transmis encore plus l'amour de l'Italie. Et ensuite, ensuite, ça a continué comme ça jusqu'à ce que je décide d'aller terminer mes études.
Mais il n'y a pas d'italien chez vous, on est d'accord,
hein. Il n'y a pas d'italien du tout chez nous, absolument pas.
Alors, vous apprenez la langue et puis vous partez en Erasmus, c'est ça, en Italie?
Je pars en Erasmus pour terminer mes études, c'est ça. J'ai fait une maîtrise de lettres classiques donc à Florence. Et donc, j'ai passé un an à Florence à maîtriser encore plus la langue, parce que quand je suis revenue, j'étais vraiment bilingue. Et puis avec la chance aussi de pouvoir étudier au milieu des fresques de Michel-Ange et puis de tout le patrimoine florentin. Voilà, donc ça, c'est un très très beau souvenir.
Est-ce que c'est pas un peu compliqué de rentrer? On n'a pas l'impression que c'est un peu fade quand on rentre à Paris, même si Paris est une très belle ville, mais on se dit oh là là, on est plus dans le même espace-temps là.
Très compliqué de rentrer. D'abord parce que j'étais bien en Italie et que j'avais pas du tout envie de rentrer à Paris ni en France. Je me sentais bien dans ce pays et c'est quelque chose d'assez curieux parce que ça a été un vrai coup de foudre quand j'y suis allée. C'est-à-dire que encore une fois, j'ai aucune origine italienne, mais là-bas, je me sens vraiment chez moi. C'est un peu mon pays de cœur et c'est mon deuxième pays. Du coup, j'avais pas trop envie de rentrer. Je me sentais même mieux qu'en France. Et puis parce que ça, je l'apprendrai à personne, mais Erasmus, c'est vraiment quelque chose d'assez particulier, c'est un moment à part et c'est vrai qu'on est un peu hors du temps, comme vous dites. Voilà. Mmh. Mais bon, c'est peut-être pour ça que je suis repartie plus tard en Italie, d'ailleurs.
Ah, donc voilà, j'allais y venir, vous n'êtes pas restée en France, donc vous êtes repartie.
Non, enfin, je suis pas tout à fait repartie, c'est-à-dire que j'ai, j'ai commencé ensuite à travailler en France et je suis rentrée dans la vie active et ensuite j'ai rencontré un Italien, voilà.
J'en étais sûre. Quand on aime l'Italie, on aime aussi les Italiens.
Exactement. Donc j'ai rencontré un Italien qui lui vivait en Italie et qui ne parlait pas un mot de français et donc il vivait à Naples et donc je me suis partagée entre Naples et Paris pendant 5 ans. C'est-à-dire que je travaillais un peu à Paris et un peu à Naples quand j'allais là-bas. Et bon, lui, c'est pareil, il faisait des allers-retours. Lui, il était architecte, donc il pouvait travailler depuis Paris. Et donc, j'ai vécu comme ça quelques mois à Paris, quelques mois à Naples, quelques mois à Paris, quelques mois à Naples. Et ça, c'est pareil, ça a été une expérience fantastique parce que Naples est une ville vraiment très particulière.
Voilà. J'allais vous poser la question, je ne suis jamais allée à Naples, mais en tout cas, l'image que j'en ai, c'est que ça va très très vite, on roule n'importe comment, c'est un peu ça.
Naples, c'est un petit peu ça, ouais. Naples, c'est un peu comment vous expliquer ça. Oui, c'est ça. C'est une ville qui est à part en Italie parce que effectivement, ça va vite. Les gens ont leurs propres règles. Ça crie un peu dans tous les sens. Ça foisonne de partout et en même temps, c'est une ville avec un patrimoine historique et culturel.
Mais certains disent que c'est la vraie Italie, Naples, que c'est vraiment l'Italie finalement.
Moi, je dirais pas ça. Je dirais que toute l'Italie est la vraie Italie. L'Italie, c'est vraiment très différent du nord au sud. Et vous avez chaque recoin a son charme. Après, Naples, ce qui est vrai, c'est que vous avez un patrimoine, encore une fois, culturel et historique très, très fort, puisque vous avez à la fois l'architecture italienne, l'architecture française, l'architecture espagnole. Et c'est le reflet de toute cette histoire que vous avez à Naples. Et c'est vrai qu'on le ressent. Après, c'est l'Italie... C'est l'Italie telle qu'on peut la voir effectivement dans les films ou telle qu'on peut s'imaginer, oui, c'est ça. C'est très coloré, très pittoresque.
Alors, je vais être très indiscrète, mais cette histoire d'amour avec votre beau bel Italien, ça continue? Vous êtes toujours ensemble?
Non, pas du tout. Mais on est toujours en contact, on n'est pas fâchés. Mais voilà, ça s'est terminé pour des raisons qui n'avaient rien de...
Oui, comme dans toutes les histoires qui se terminent, il n'y a pas toujours de raison très claire.
Non, il n'y a pas toujours de raison, mais en tout cas, oui, on est toujours en contact, on se voit toujours et j'ai gardé de toute façon de très bons contacts et de très bons amis là-bas, donc il m'arrive d'y aller souvent, voilà.
Et aujourd'hui, vous êtes à Paris, qu'est-ce que vous faites à Paris d'ailleurs? Pourquoi vous n'êtes plus en Italie?
Alors, tout simplement pour des raisons, enfin si demain je retrouve du travail en Italie, je repars, ça c'est sûr et certain, pour des raisons professionnelles. Aujourd'hui à Paris, j'ai travaillé longtemps comme journaliste dans l'audiovisuel et aujourd'hui je suis directrice du pôle international d'une agence de communication et d'événementiel. Donc je suis pas très loin de l'Italie parce que je travaille quand même avec l'Italie et les Italiens. Je travaille avec les blogueurs italiens parentaux, voilà, les plus influents.
D'accord. Mais c'était juste, je voulais être rassurée quand même que tout allait bien, Sophie, même tout en étant à Paris. Hein.
Je voulais être sûre. Tout va très bien, mais bon, je vous avoue que si demain je trouve une opportunité en Italie, je pars en Italie.
Vous sautez dans la première petite voiture et vous y allez. Mais c'est hyper intéressant votre parcours et puis ça peut donner aussi plein d'idées à des jeunes qui nous écoutent, qui ont envie, qui sont passionnés. Parfois, on ne sait pas pourquoi on est attiré par une langue, par une culture, par un pays. Et ça peut déclencher de très jolies histoires et de très jolies vocations professionnelles aussi.
Exactement. Je ne saurais trop recommander justement aux jeunes gens l'Italie ou ailleurs, mais de passer par Erasmus parce que c'est une expérience très enrichissante et je pense qu'aujourd'hui c'est un peu indispensable étant donné la façon dont on vit et l'ouverture sur le monde qu'il y a aujourd'hui professionnellement. Voilà.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Sophie. C'était passionnant d'échanger avec vous sur l'Italie. Vous êtes vraiment une amoureuse de l'Italie. Je vous donne l'étiquette amoureuse de l'Italie. Vous la gardez. Hein.
Avec grand plaisir, Vanessa.
À bientôt, Sophie.
À bientôt.
Au revoir.
Au revoir.
Racontez-nous votre histoire. Ce soir, on se dit tout sur France Bleu avec Vanessa Lambert.
Et jusqu'à 22h, on voyage entre la France et l'Italie grâce à vos témoignages sur France Bleu. Et nous partons maintenant à Nantes rejoindre Giuseppe. Bonsoir, Giuseppe.
Bonsoir.
J'adore votre prénom déjà, je voulais vous le dire.
Merci, c'est gentil.
Est-ce qu'on dit de vous que vous êtes italien ou est-ce qu'on dit que vous êtes sicilien? Parce que j'ai l'impression que c'est quand même très important la différence.
Tout à fait, exactement. Alors, être sicilien, c'est quelque chose de qui nous, les siciliens, ça nous regarde énormément par rapport à la, comment on dit ça, par rapport à la différence des régions de par exemple en parlant de Florence, Milan, Turin, etc. Donc, c'est-à-dire que nous, monsieur, c'est, la mentalité, c'est, on a une mentalité plus ouverte. Moi, je le, c'est pas moi, tout seul à penser ça, mais c'est la plupart des Siciliens, la plupart des gens du sud d'Italie, on la voit, la différence. On est plus ouvert, on est plus.
Et puis, ouvert, j'ai l'impression que vous êtes aussi très fier d'être Sicilien.
Tout à fait, tout à fait. Moi, j'ai, ça, je le dis avec une, comment dire, une grande voix, parce que je tiens beaucoup à ma région, là, la Sicile. J'ai fait du tatouage. Je l'ai ici. Donc, sans fait. Et qu'est-ce qu'il y a? Il y a la Sicile.
Sur vous, donc, sur vous, dans, sur votre corps.
Sur, exactement, sur mes bras, vous voyez. Donc, quand je travaille, les gens, ils voient ça. Donc, pourquoi j'ai fait ça? Parce que c'est quelque chose que moi, je tiens beaucoup. Ça fait presque 24 ans que je suis parti de chez moi. Donc, vous voyez, ça reste... pour moi, c'est la Sicile, c'est la Sicile. Quoi.
Et pourquoi vous êtes parti, d'ailleurs? Qu'est-ce qui fait que vous avez quitté la Sicile?
Alors, la Sicile, la première fois que je suis arrivé sur Nantes, c'était... là, ça me fait rigoler, je suis sûr. En voyage de noces. Vous voyez? Moi, j'ai une oncle, je l'ai fait ici à Nantes parce que j'ai un oncle, mon oncle, le frère à mon père, qui habite à Nantes depuis.
D'accord.
Bon, ça fait plus une quarantaine d'années, quoi, vous voyez.
Mais le choix s'est fait parce que c'était la famille, point barre.
Oui, exactement. Oui. Exactement.
C'est pas trop dur quand je sens à quel point vous êtes attaché à votre terre, à votre région. Le déracinement n'a pas été trop compliqué?
Non, parce que moi personnellement, moi je suis quelqu'un qui je m'adapte facilement au pays. En plus, on est en France, donc c'est un pays que ça ressemble à l'italien. Hein, donc bon, la langue, c'est vrai que c'était dur, mais on a une ressemblance quand même. Et donc non, ça va.
Aujourd'hui, vous avez et vous tenez une pizzeria. Il paraît même que tous les Italiens qui sont de passage à Nantes viennent chez vous. C'est vrai?
Oui, oui. Il y a ensemble, comment dire, une fois, on va dire une fois par mois, une réunion d'Italiens qui s'arrivent de tous les régions de l'Italie. Hein, et ils aiment. Rester dans un esprit, dans une ambiance familiale, quoi, parce que la pizzeria est petite, donc des places, mais les gens, ils adorent ça, franchement, ils adorent ça, une fois par mois, de passer un bon moment avec le mélange d'italien et quelques collègues qui sont des Français, hein.
Mm-hmm. Voilà. C'était un plaisir, Giuseppe, de discuter un petit peu avec vous de votre pays, de votre nouvelle ville d'adoption. Puis visiblement, ça vous manque pas trop, la Sicile, vous êtes bien à Nantes. Et de parler aussi un peu gastronomie, parce que la pizza, c'est quand même
merci.
Très, très lié à l'Italie. Merci beaucoup d'avoir
merci
été avec
beaucoup.
Nous.
Merci beaucoup.
Bonne soirée, Giuseppe.
Bonne soirée, merci, à bientôt,
au revoir.
Au revoir, merci.
Le soir, sur France Bleu, on se dit tout.
Et ce soir, sur France Bleu, on est un peu en Italie quand même. L'Italie, c'est le sujet dont se dit tout jusqu'à 22h. Et on va parler maintenant de la langue, l'italien, qui en fait craquer plus d'une et plus d'un. C'est une prof d'italien qui est avec nous, Emmanuel, en Loire-Atlantique. Bonsoir, Emmanuel.
Bonsoir.
Comment on devient prof d'italien? Est-ce qu'on a de la famille déjà à la base ou pas du tout?
Non, je n'ai pas de famille, enfin pas de famille directe qui est là-bas, mais en réalité, mon père était géographe et on a vécu beaucoup de temps en Italie ou dans le bassin méditerranéen et la passion est née comme ça.
Et donc la passion, c'est une chose, se dire tiens, je vais apprendre l'italien et je vais donner envie ensuite à des jeunes d'apprendre la langue, c'en est une autre encore.
Oui, bien sûr, mais c'est tout à fait lié, c'est-à-dire qu'on part, on commence à partir là-bas, on découvre le pays, les gens, la bonne humeur, la façon de vivre, la nourriture, le soleil ou parfois plus le froid. Et on se dit, c'est vraiment un magnifique endroit, on aimerait ensuite bien partager cette passion avec d'autres. Et la langue, bien sûr, est un élément, un vecteur essentiel. C'est une musique, je dis une musique, mais c'est une langue justement très musicale. Et en réalité, on commence à parler, ça nous permet aussi pour nous Français qui sommes plus timides, j'imagine que les Italiens, ça nous permet de nous libérer. Mmh. C'est une langue qui est très volubile. On parle avec le corps, on parle avec un accent différent, avec les mains, on parle avec, on a des intonations différentes. Et finalement, c'est une manière très belle de communiquer. Et donc, on a envie de partager ça avec d'autres. Donc, on l'apprend d'abord, puis ensuite,
on la fait apprendre.
On l'enseigne. Mmh.
C'est une langue qui ressemble quand même beaucoup au français. Est-ce que ça veut dire pour autant qu'elle est facile à apprendre pour les Français?
Alors, malheureusement, je dois avouer que ce n'est pas si facile à apprendre. C'est facile de communiquer un peu. Alors, on peut demander rapidement son chemin. On peut rapidement commander des cafés dans un bar. On peut rapidement commander dans un restaurant de bons plats. Mais en réalité, ensuite, pour la grammaire, pour parler de façon plus, on va dire, plus forte, avec plus de nuances, il y a quand même beaucoup de choses à apprendre, comme toute langue, hein, de toute façon.
Ouais. Oui, mais c'est vrai que c'est bien de savoir que c'est pas parce qu'il y a des mots qui ressemblent au français que ça va être forcément facile à apprendre.
Non.
C'est toujours bien de le rappeler.
Exactement.
Qui sont les... Pardon.
Non, je disais que même d'autres langues, comme l'anglais, qui... Et une langue à 80% de mots français qui sont intégrés dans la langue, mais c'est une langue, finalement, pour nous, français, assez difficile à apprendre. Donc, chaque langue a ses approches faciles et finalement des niveaux difficiles à atteindre.
Et qui sont les élèves qui, aujourd'hui, choisissent l'option italien? Est-ce que, comme vous, c'est des voyages en Italie quand ils étaient plus jeunes? C'est la famille italienne? C'est quel profil, en fait, l'élève aujourd'hui qui apprend l'italien?
Alors, il y a un peu de tout. Il y a des étudiants qui sont de deuxième ou troisième génération qui ont envie de retrouver leurs racines et qui se mettent à l'italien parce que, justement, ils sont allés une ou deux fois en Italie où ils ont vu que leurs grands-parents connaissaient quelques mots ou alors ils ont des cousins éloignés, donc ils veulent communiquer avec eux. Ça, c'est des premiers étudiants. Puis, il y a des étudiants passionnés qui travaillent aussi l'histoire de l'art, par exemple, dans leurs études, ou qui ont été passionnés parce qu'ils ont commencé au lycée ou ils ont commencé à l'université la langue, et puis qui s'intéressent ensuite à la civilisation, à la littérature, au cinéma, etc. Donc l'approche se fait par le côté culturel. Et puis il y a les amoureux de la langue, de la linguistique également.
C'est quoi l'avenir aujourd'hui de l'italien dans l'éducation nationale? On sait que l'anglais est obligatoire, que très souvent en deuxième langue on part sur de l'espagnol. Il y a eu un gros lobbying avec l'allemand à un moment donné. Est-ce que l'italien a encore sa place? Est-ce qu'on lui fait de la place?
Alors en tant qu'enseignant d'italien, je vais vous dire oui, bien sûr. Mais c'est pour être plus objective, je pense qu'il y a deux catégories d'étudiants à l'heure actuelle. Il y a des étudiants qui ont commencé la langue au lycée et qui veulent la poursuivre et donc qui veulent arriver à un niveau assez élevé. Et il y a des étudiants qui découvrent la langue à l'université pour connaître différentes langues. Parce qu'il faut savoir que quand on parle une langue, on a un esprit différent, on a une culture différente. Et donc, parler l'anglais, ça peut être très bien une langue de travail, mais ce n'est pas suffisant pour le travail, justement. On peut très bien parler d'autres langues et avoir une approche bien plus précise et ciblée dans les métiers plus tard que l'on va faire. Donc, le tout, c'est connaître des langues étrangères. Et l'italien est une langue, c'est vrai, facile d'approche, mais aussi avec beaucoup de culture. Et c'est pour ça que les étudiants l'apprennent souvent.
C'est hyper intéressant, ça donnerait presque envie de reprendre ses études, mais il n'y a pas d'âge pour apprendre une langue, on est
non,
bien d'accord Emmanuel?
Il n'y a jamais d'âge. Alors, il y a beaucoup de... En plus, il y a énormément de choses à faire à Nantes, par exemple, où nous sommes pour l'italien et pour les langues étrangères. Il y a des festivals de cinéma italien, il y a des pièces de théâtre qui sont régulièrement données en langue italienne. Il y a énormément d'expositions. C'est, avec le nouveau musée d'art, vous allez avoir beaucoup d'expositions avec des peintres italiens, et tant mieux. Vous savez qu'il y avait même des peintres italiens à l'époque, au début du XXe siècle, qui partaient en Bretagne. Donc il y a quand même une tradition de peintres italiens en Bretagne qui ont permis de développer aussi une certaine idée de la peinture. Vous avez bien sûr les mosaïques, vous avez une immigration italienne dans les années 50-60 qui ont apporté énormément, et même 30, qui ont amené énormément de ces métiers d'art dans la région. Donc en fait, vous avez ainsi énormément de petites choses qui font que la présence de l'italien est assez visible dans la ville et dans la région. Finalement, il y a énormément de choses à faire ici.
C'est passionnant de pouvoir le découvrir aussi de cette façon-là. Merci beaucoup Emmanuel d'avoir été avec nous ce soir. Et je vous souhaite une belle soirée. À très bientôt.
À vous aussi, à bientôt.
Au revoir.
Vos témoignages, vos expériences. Ce soir, on se dit tout sur France Bleu.
L'Italie, les Italiens, la façon de vivre à l'italienne, c'est le sujet dont se dit tout ce soir jusqu'à 22h. Et nous sommes maintenant en Normandie avec Lucille. Bonsoir Lucille.
Bonsoir Vanessa.
Votre grand-père est italien, on pourrait donc en toute logique dire que vous êtes un peu italienne vous aussi, mais en fait le gène italien n'est pas arrivé jusqu'à vous, on dirait.
Si, alors quand même en partie, mais effectivement je... pas hérité de toutes les traditions ni du parc italien de mon grand-père qui ne nous a pas forcément transmis ce jeune italien.
Mais pourquoi il ne l'a pas fait ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Il n'a pas voulu ? À un moment donné, c'était le passé ? C'est quoi ?
Je pense que oui. Il lui restait des réflexes italiens. Donc, quand on coupait nos spaghettis, on se faisait un peu taper sur les doigts. Mais en dehors de ça, on ne l'a jamais entendu parler italien à la maison. C'est finalement ma grand-mère qui avait envie de nous inculquer ça, alors qu'elle n'était pas du tout italienne, qui, elle, avait appris l'italien et finalement essayait de transmettre tout de même ce côté italien.
Lucille, vous avez dit, Lucille, que vous coupiez vos spaghettis. C'est quoi cette histoire?
Quand on était petit, le fait de couper ses spaghettis, pour mon grand-père, ça devait être un réflexe d'enfant. Je pense qu'il devait se faire disputer quand il était encore en Italie. Et c'est vrai que nous, si on faisait ça, c'était sacrilège. Un peu comme de retourner le pain pour certains. Il ne fallait pas faire ça.
Vous ne le faites plus aujourd'hui. Vous êtes grande, rassurez-moi.
Maintenant, je ne le fais plus. J'essaie d'utiliser la grande cuillère pour faire ça comme il faut.
Ce n'est pas toujours évident, effectivement. Est-ce que vous y allez parfois en Italie sur les traces de votre famille, un petit peu quand même, de votre histoire?
Alors oui, par contre, je suis allée vraiment très souvent en vacances en Italie. C'est un endroit où je me sens bien, naturellement bien. Est-ce que c'est les gènes ou pas, j'en sais rien, mais j'ai tendance à avoir envie d'y aller, un peu besoin d'y aller régulièrement. Donc j'ai fait un petit peu le tour. Finalement, il y a que la région d'où vient mon grand-père où je ne suis pas encore allée. Donc ça sera probablement à faire. Je sais que j'ai de la famille là-bas, mais j'ai pas encore pris la décision de sauter le pas et d'aller les voir.
Est-ce qu'il y a une région en particulier où vous adorez aller ? Vous dites j'aime toute l'Italie, mais est-ce qu'il y a vraiment une région ou une ville qui ressort où vous dites là vraiment, si je pouvais, j'y passerais encore plus de temps ?
Ah, je crois que si je pouvais habiter à Rome, j'y serais bien. Après, j'ai passé aussi un mois en Sicile et j'ai adoré l'ambiance. Maintenant, c'est vrai que Rome, j'ai vraiment adoré. J'ai une passion pour cette ville. Je pourrais y retourner tous les week-ends sans aucun souci.
Et vous la parlez, la langue, aussi, maintenant ?
Pas du tout. Non, pas maintenant. Alors après, c'est vrai que je me disais que le jour où mon fils sera grand, où j'aurai un petit peu plus de temps libre, c'est quelque chose que j'aimerais, oui, effectivement, pouvoir parler italien de façon à être plus à l'aise quand je vais là-bas. D'autant que quand je fais une réservation avec mon nom de famille italien, et comme je suis brune, dès qu'on arrive en Italie, les gens me pensent italienne et c'est vrai que c'est un peu compliqué de les arrêter une fois qu'ils me parlent italien.
Et puis vous dites que vous avez de la famille aussi là-bas, c'est peut-être une façon de reprendre le contact plus facilement, le fait de parler la langue ?
Oui, peut-être aussi, il y a aussi ça qui me freine, je me dis que ça risque d'être plus compliqué de rentrer en contact avec une famille assez éloignée. S'il y a la barrière de la langue, c'est plus compliqué. Donc je pense que j'aurais peut-être plus de facilité à aller là-bas, les rencontrer, s'il n'y avait pas cet obstacle.
Alors vous nous avez dit que votre grand-père, et donc du coup aussi par la suite votre père, vous a pas forcément parlé de l'Italie, de l'italien non plus, de la langue. Est-ce que vous aujourd'hui, en tant que maman, vous vous dites « moi j'ai envie de transmettre peut-être à mon fils ce côté italien que j'ai en moi ?»
Oui. Et puis mon amour de l'Italie, les vacances là-bas, c'est vrai que j'ai tendance à imaginer y retourner quand mon fils sera plus grand. Et puis éventuellement parler italien pour pouvoir lui le faire communiquer aussi plus facilement. C'est vrai que c'est quelque chose que j'aimerais poursuivre. Plus je vieillis et plus ça ressort finalement, ce côté familial.
Bah c'est pas mal hein, comme argument, comme motivation en tout cas pour y aller. Un dernier petit mot sur la famille que vous avez là-bas en Italie. Il n'y a jamais eu de contact entre vous ? Il n'y a pas d'échange aujourd'hui ?
Alors avec moi directement non. Je sais qu'avec ma grand-mère il y en a eu. Après je ne sais pas s'il y en a encore. Maintenant que mon grand-père est décédé, je ne sais pas si elle a entretenu ou pas. Je sais qu'il y avait des grands-oncles, des grandes-tantes. Après j'ai pas eu plus de détails. Finalement je commence à m'y intéresser un peu plus depuis quelques années. Plus jeune, c'était pas forcément quelque chose qui m'intéressait. Là, je commence à avoir envie d'en savoir plus, donc je vais creuser dans les années qui viennent.
Vous allez partir sur l'histoire de votre histoire, en fait.
Voilà,
un petit
je
peu
pense.
Ça. Mais vous arrêtez de couper vos spaghettis, hein, c'est important.
Oui, je prends sur moi maintenant. D'ailleurs, quand je vois quelqu'un le faire maintenant, ça commence à m'hérisser un petit peu. Donc
ah,
ça doit, Va revenir.
Les gènes italiens se réveillent un peu quand même là.
Exactement. Je pense que en vieillissant, finalement, tous ces côtés-là ressortent un peu plus.
Merci Lucille d'avoir été avec nous ce soir, d'être venue nous parler de votre famille, des spaghettis et de l'avenir et de l'avenir aussi, parce qu'on sent que l'avenir se tourne quand même pas mal vers l'Italie pour vous.
Hein. Exactement.
Je le sens
oui.
bien. Bonne fin de soirée, Lucille.
À vous aussi, Vanessa. Au revoir.
Merci. Au revoir.
Contez-nous votre histoire. Ce soir, on se dit tout sur France Bleu avec Vanessa Lambert.
Et l'Italie, effectivement, est au cœur de nos discussions ce soir sur France Bleu. On essaye de parler à la fois de famille, de culture, la cuisine, le carnaval, le foot, pourquoi pas aussi la musique. Et c'est maintenant Fabrizio qui est avec nous. Bonsoir Fabrizio.
Bonjour.
Alors avec un prénom comme le vôtre, on imagine bien que vous êtes italien, mais vous êtes aussi français. Vous avez les deux cultures. C'est facile ou c'est compliqué d'avoir les deux ?
Alors moi je dirais que c'est plutôt simple à condition de savoir l'utiliser à bon escient pour rapprocher les deux cultures. C'est ce que j'essaie de faire, c'est vraiment d'utiliser mon côté italien et mon côté français pour rapprocher et gagner en cohésion dans tous les moments du quotidien. Souvent on a tendance à vouloir opposer trop facilement les gestes, alors que finalement il y a tout un rapprochement à créer, et c'est là le rôle des doubles cultures.
Ouais, on n'essaye pas de s'opposer. C'est quoi votre côté italien ? C'est quoi votre côté français, alors, si on essaye de décortiquer
alors,
tout ça ?
Mon côté italien, ça serait plutôt le côté latin, donc chanteur lyrique. Je fais pas mal de musique. Je suis d'une famille de musiciens qui appartient au passé, hein, Paganini ou Enrico Cecchetti pour la partie du ballet. Et donc, on a toujours été amené à échanger par le biais de la musique, hein, comme relais de communication. Et donc ça serait ce qui décrirait le mieux mon côté italien.
Et votre côté français, il est où alors ?
Mon côté français, il est dans la partie plutôt gastronomie, parce que je suis très attaché à tout ce qui est la cuisine française qu'on peut avoir aujourd'hui sur des tables, que ça soit sur le vrai manger local, donc toute la correspondance avec les produits du territoire. C'est ce qui décrirait plutôt donc mon côté français par le biais de l'alimentation.
Ah, la gastronomie italienne est moins intéressante que la gastronomie française alors.
Les deux sont à rapprocher parce qu'on est sur des bases méditerranéennes. Après, bien sûr, le rôle de la France, c'est bien de faire valoir aussi ses produits. Donc, il y a tout un goût aussi pour moi de faire de la promotion du made in France à l'étranger et en Italie.
Alors, vous nous avez dit que vous chantiez aussi, qu'il y a une grande tradition de chanteurs dans votre famille. Vous chantez en italien?
Alors c'est la langue du bel canto. C'est vrai que l'opéra aujourd'hui a été écrit, hein, qu'on prenne des textes de Mozart ou autre, toujours a été écrit en langue italienne, donc c'est plutôt une langue que j'utilise, c'est vrai, aujourd'hui pour chanter.
D'accord. Et vous chantez régulièrement ? Vous faites de la scène ? Racontez-nous.
J'essaye de monter un groupe, un chœur de rue qui va permettre, une nouvelle fois, de rapprocher les cultures et de faire des événements à caractère non lucratif, donc pour développer en fait l'usage de la rue à bon escient, donc recréer des scènes, que ce soit faire des opéras de rue ou tout simplement utiliser la rue comme un lieu d'échange pour chanter et faire naître un chœur qui, je l'espère, verra et naîtra cette année.
Un petit peu comme il y avait une certaine époque dans les rues d'Italie.
C'est exactement ça, à Naples, l'opéra est né dans la rue, les théâtres ouverts, à ciel ouvert.
Alors quand vous dites que vous êtes un défenseur de la culture italienne à Paris, ça veut dire quoi ? Vous parliez là de la musique, la culture c'est beaucoup plus large que ça, vous allez jusqu'où ?
Alors aujourd'hui, je pense que ça commence déjà entre les groupes à l'université, les groupes, les communautés. Voilà, essayer de faire en sorte déjà de promouvoir ce qu'il y a de mieux dans une culture. Hein. L'Italie, ça va être marqué par bien sûr l'art, la notion au beau. C'est vrai qu'en Italie, on cultive la notion du beau à travers plein d'art. Hein. La musique en fait partie. Donc pour moi, ça va être vraiment une volonté d'explorer des points de rapprochement entre les cultures et aujourd'hui ça se passe par soit des amis qui s'appellent les Ritals qui ont monté une web série YouTube qui mettent en avant tout simplement la vie d'Italien à Paris, et donc ça passe par ça aussi, c'est trouver des façons d'interagir avec les communautés et de promouvoir tout simplement les codes qui sont souvent limités par les préjugés qu'on en fait.
Alors vous parlez de vos amis, de leur chaîne YouTube, ils s'appellent les Ritals. On est un peu dans le cliché quand on s'appelle les Ritals, non ?
Alors oui, mais c'est au contraire, c'est de jouer de ce côté critique pour au contraire renverser la tendance et montrer qu'on est des nous avons des cultures très proches, hein, la culture latine nous unit, et qu'au contraire, c'est pas des petits préjugés qui vont nous arrêter à gagner en amitié entre ces deux peuples. Donc, il faut aller plus loin que ça. Il faut toujours se poser la question, tiens, si j'étais italien, comment je penserais? Tiens, si j'étais français, comment je penserais sur des sujets de société.
Alors, j'entends bien, Fabrizio, que vous dépensez beaucoup d'énergie pour défendre la culture italienne ici en France. Est-ce que vous faites la même chose en Italie pour défendre la culture française?
La réponse est absolument oui. Surtout dans le monde du vin, voilà, on parlait d'astronomie, donc la partie vin, en gastronomie française, on trouve des fromages, en termes de d'apport culinaire. Après, c'est vrai que on est sur des visions où bien chacun veut imposer un peu son style gastronomie, mais je suis convaincu que la France a un fort intérêt à développer des bistrots, des brasseries ou toute autre ambition en Italie, et que ça passe par des fromageries, des concepts gastronomiques, du vin, qui trouveraient sûrement leur place sur un marché italien en pleine croissance sur ces sujets.
Un dernier petit mot, Fabrizio, si vous deviez choisir entre l'Italie et la France, c'est une question horrible, hein, je le sais bien, deviez choisir, vous choisiriez quel pays?
Je choisirais moi-même. C'est-à-dire que je suis exactement 50% l'un, 50% l'autre, donc ça c'est impossible de répondre à cette question. Je choisirais d'être ce que je suis, défendre les deux couleurs à l'étranger. Voilà.
C'est une jolie réponse, vraiment. Merci d'avoir été avec nous, Fabrizio.
Je vous remercie. Merci à vous et à très bientôt.
À très bientôt, et on va continuer bien sûr de parler d'Italie avec, comme Fabrizio, des Italiens et Français, on l'a bien compris. On ira se promener, on va parler du carnaval également. Et pourquoi pas de football d'ici la fin de cette émission. On est bien ensemble sur France Bleu.
Vos témoignages, vos expériences. Ce soir, on se dit tout sur France Bleu.
Et ce soir, on se dit tout sur l'Italie avec des Italiens, des Français, des amoureux de l'Italie, avec des images aussi, même si on est à la radio. Si je vous dis Venise, vous me répondez quoi? Oui, les gondoles, pourquoi pas, mais l'actualité nous emmène plutôt sur le carnaval de Venise avec Karine qui nous appelle de Loire-Atlantique. Bonsoir Karine.
Bonsoir.
C'était il n'y a pas très longtemps le carnaval, vous y étiez vous?
Voilà, c'est ça, petit week-end en amoureux donc pour la Saint-Valentin. Donc on est parti 3 jours au carnaval de Venise, donc toute la journée du vendredi, samedi et dimanche. Et puis c'est super souvenir, quoi. C'est vraiment un très bon moment. Je recommande vraiment à tout le monde.
Quand vous dites week-end en amoureux pour la Saint-Valentin, c'est lui qui vous a fait la surprise, c'est vous?
Comment... Voilà, c'est ça. C'est lui qui m'a fait la surprise le soir de la Saint-Valentin. Il m'a dit ce week-end, on part à Venise.
Oh, la classe, il est trop romantique.
Ah oui, ouais. Vraiment la grande classe. Ouais.
Ah oui, là, je dis bravo monsieur quand même.
Ouais. Donc je suis, c'était le mercredi soir, voilà, que le vendredi matin, on s'envolait pour Venise.
Alors vous y êtes allé en spectateur ou vous avez vraiment participé, vous êtes costumé pour le carnaval?
Alors, donc on est allé vraiment en tant que spectateur, on s'est acheté des masques, parce que alors là par contre il y en a partout dans Venise, et ça va de tous les prix, des masques vraiment magnifiques. Par contre on s'est dit que quand on y retournera, on jouera le jeu, on s'achètera le déguisement entier. Alors sachant que Venise c'est des très très beaux costumes, mais par contre, on retrouve aussi des costumes comme on peut rencontrer au carnaval de Nantes. On va croiser Spider-Man et tout ça.
Ah oui, d'accord, c'est bizarre. Ouais. Le décalage, ouh.
Ah, le décalage, bah oui, très, on était très surpris. Mais bon, vraiment dans le défilé, le pur défilé à la place Saint-Marc, c'est vraiment les beaux costumes. Il y en a qui ont la classe, il y en a qui font même peur. Enfin, c'est des masques des fois de lion. Enfin, c'est magnifique. C'est vraiment.
C'est facile d'en profiter, de se promener, d'être encore un peu tranquille et pas envahi par la foule. Dites-nous un petit peu comment ça
oui,
se passe.
Oui, alors quand on reste vraiment sur les grands axes, il y a vraiment beaucoup de monde. Nous, on nous a dit, il faut vraiment pas vous hésiter à vous perdre dans les rues de Venise, sachant que c'est une île, donc de toute façon, on peut pas vraiment s'y perdre. Mais par moments, on s'est retrouvés vraiment dans des petites ruelles où on n'était que tous les deux, et on a pu profiter du calme parce que déjà, il y a aucune voiture ni mobylette, tout se fait à pied. Fait à pied avec le sac à dos, et non, on a vraiment pu se retrouver par moments seul, et des fois on se demandait mais où sont tous ces gens. Oui, voilà.
Donc, la plus beau moment que vous avez vécu pendant ce carnaval?
Le plus beau moment, alors moi j'ai beaucoup aimé rencontrer, parce que donc on est allé vraiment au défilé, c'était le dimanche où il y a eu le saut de l'ange. Mais par contre, là, c'était vraiment noir de monde. On peut pas vraiment accéder, parce qu'il n'y a pas de phare, il n'y a rien du tout. C'est seulement des personnes déguisées qui défilent. Donc, vu qu'on est arrivé un petit peu en retard, on a surtout regardé, parce que c'est sur le grand écran. Mais par contre, les jours d'avant, le soir, on se balade dans les rues de Venise et à tout moment, on peut croiser des carnavaliers qui sont là, se balader, qui jouent le jeu, qui se laissent se prendre en photo. Donc là, c'était vraiment magnifique.
Il a fait beau en plus, non?
Il a fait super beau.
Ouais, j'ai l'impression, Saint-Valentin.
Super beau. Ouais, on a eu super beau.
C'était une première pour vous, l'Italie, ou vous y êtes déjà allé?
Alors, on connaissait Rome. Moi, je suis très amoureuse, enfin, on est tous les deux très amoureux de l'Italie. C'est vraiment, l'Italie, pour moi, c'est vraiment resté très vieux. Enfin, c'est pas du neuf. Partout où on va, on a l'impression que c'est vraiment resté, y a pas de rénovation, c'est resté vraiment atypique.
Et alors, quand vous dites que vous avez toujours aimé l'Italie, ça a commencé comment? J'aimerais bien, moi, savoir le déclic.
Alors, moi, j'ai toujours aimé l'Italie parce que je trouve que c'est une jolie langue, même si je ne l'ai jamais parlé. L'Italie, c'est aussi par rapport à l'alimentation. J'aime beaucoup l'alimentation italienne. Et puis après, j'ai vraiment découvert l'Italie à travers Rome. Et là, je suis tombée vraiment amoureuse aussi de la ville de Rome, que j'ai fait en juin l'année dernière. Et puis là, Venise, on est vraiment tombés sous le charme de l'Italie tous les deux.
Donc, il va falloir y retourner, là, hein?
Oui. Un peu. Rome, c'était l'année dernière pour mon anniversaire, pareil, surprise de
moi. Ah, mais il est sain. Et votre amoureux, il est bien, hein. Mais
il doit
aimer l'Italie aussi, parce qu'il se dit, j'en profitais en même temps.
Oui.
Est-ce qu'il aime le foot, votre amoureux?
Ah oui, ancien joueur du FC Nantes.
Ah ouais?
Le foot, oui.
Ah bah oui, forcément. Parce qu'on va en parler de foot dans un instant avec un Italien qui aime le foot. Et on sait que l'Italie et le foot, c'est une grande histoire d'amour. Il pourrait en parler aussi, votre amoureux, du foot italien?
Alors, c'est pas forcément... Je serais plutôt Barça, alors qu'il pourrait parler.
Vous avez dit un gros mot, là.
Ouais, voilà. Désolée à tous les Italiens. Mais non, par contre, il pourrait quand même parler du foot italien. C'est quand même une belle équipe.
Ah bah oui, très beau.
J'ai ramené le t-shirt, donc...
Ah oui, quand vous partez en Italie en amoureux, vous ramenez des t-shirts de foot, des maillots de
foot. Voilà.
D'accord. Merci beaucoup, Karine, d'avoir partagé cette belle aventure sur le carnaval de Venise. Ça donne envie d'y aller pour les autres années. Et alors, le conseil, c'est vraiment de jouer le jeu jusqu'au bout. Hein. C'est ce que vous dites. On ne va pas juste en spectateur, on emmène un costume et on le loue éventuellement.
Ah, puis on a envie de toute façon de participer.
Avec des gestes très lents, quelque chose de cérémonial, hein, c'est très beau.
Ouais. On a le sourire et les yeux tout le long, on a le sourire, on a les yeux écarquillés, enfin, c'est vraiment super.
Merci beaucoup Karine, bonne fin de soirée à vous et je vous laisse à regarder toutes les photos que vous avez prises à Venise. Je suis sûre que vous n'avez pas fini de tout classer encore.
Ah non,
voilà, j'en étais sûre. Merci, bonne soirée Karine.
Merci, au revoir.
Au revoir.
On se dit tout.
J'espère que je prononce bien parce que c'est un Italien qui va nous rejoindre maintenant, c'est Mirko. Bonsoir Mirko.
Bonjour, bonsoir à vous.
Est-ce que je l'ai bien dit alors, Gianna Nannini?
Gianna Nannini, ça se prononce, voilà.
Ouais, faut accentuer un petit peu, c'est ça.
Voilà,
Gianna Nannini, voilà, c'est mieux comme ça. Mirko, vous êtes italien, mais aussi français. Racontez-moi un petit peu votre histoire.
Je suis né en fait à Naples d'un papa napolitain, d'une maman française, donc ce qui fait que je suis bilingue de naissance et biculturel. Donc.
Mais vous êtes quand même les deux. Mais vous vous sentez plus italien ou plus français? Cette question est complètement débile.
Non. Mais comment vous dire? Alors, lorsqu'on est dans un pays. On se sent souvent un peu plus proche du pays dans lequel on est, je pense. En plus, je suis né dans une ville comme Napoli, qui est quand même une ville assez, assez particulière et où l'identité, où le sentiment d'appartenance, comme on peut dire en français, est quand même très très fort. Je pense qu'il est sans doute unique en Italie, voire même peut-être probablement en Europe. Donc,
vous, votre truc à vous, Mirko, c'est le foot aussi?
Oui. Quand on est à Napoli, c'est vrai que c'est souvent, disons qu'une très grande partie de la ville est très supportrice du club de la ville, qui est donc le Napoli. Ce qui est intéressant, je pense, c'est que c'est la seule métropole italienne qui a qu'un seul club de football, en fait. Lorsqu'on regarde que des villes comme Gênes, Milan, Roma et même Turin ont deux clubs de foot dans la ville, et Napoli dans la Castle.
Ah, c'est pas le plus connu quand même.
Ce qui fait que, c'est pas plus connu par rapport à quoi? Par rapport à l'Italie?
Par rapport au Milan AC, par rapport à la Juventus?
À l'étranger, disons que le club italien qui a le plus de titres au niveau européen, ça reste le Milan. C'est sûr que Naples est un club assez particulier, parce que même si le palmarès national et international n'est pas celui d'un club de premier ordre européen.
Parce qu'il y a des grands joueurs qui sont venus. Enfin, on pense à Maradona, par exemple.
Il y a Maradona, qui est sans doute le plus grand joueur de tous les temps, qui a joué 7 ans au club et qui a fait venir, à l'époque aussi, hors de sa venue, parmi les tout meilleurs joueurs du monde à leur poste, si ce n'est les meilleurs.
Mirko, on approche bientôt à la fin de cette émission. Il y a un sujet qu'on n'a pas encore abordé, c'est la drague à l'italienne. Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de particulier chez les Italiens dans la séduction? Est-ce qu'on peut en parler, d'ailleurs?
Je pense que ça reste quelque chose de assez compliqué à décrire et assez compliqué à comprendre pour un étranger. Je pense que l'Italien peut être vu à l'étranger comme un homme assez séducteur et entreprenant, du fait tout simplement que dans le pays même, il se trouve souvent obligé de se comporter de la sorte, en fait.
Pourquoi obligé?
Parce que en Italie, je pense que le rapport à l'inconnu, du fait de l'éducation que beaucoup reçoivent, n'est pas le même que par exemple dans certains pays, notamment du nord de l'Europe, mais ça c'est quelque chose de très latin. Je pense que c'est pas forcément quelque chose d'exclusivement italien. Je pense que l'italien a réputation de séducteur et d'homme assez entreprenant à l'étranger, parce qu'il se retrouve en fait souvent, voire toujours obligé en fait dans son pays à se comporter de la sorte pour espérer retenir l'attention d'une femme, parce qu'il faut savoir que les femmes en Italie sont élevées dans 90%, enfin à de très rares exceptions près, sont souvent très élevées pour justement
ne pas... C'est des femmes de caractère aussi, souvent.
Oui, mais c'est souvent la femme attend souvent d'être séduite et d'être, disons, est éduquée, même si justement un homme essaie de la séduire, justement, de ne pas justement montrer ses émotions et ne pas justement faire comprendre qu'elle est intéressée trop vite.
D'accord. Ouais, les codes ne sont pas forcément les mêmes, en fait, c'est ça.
Voilà, les codes ne sont pas forcément les mêmes. Je pense que lorsqu'on parle de séduction à l'italienne, on parle souvent de séduction masculine, mais je pense que ce qui est très important, très intéressant à étudier, c'est que tout simplement, il ne faut pas oublier que cet aspect-là dérive aussi et surtout justement du comportement aussi de la femme, donc qui peut effectivement varier, même si c'est vrai qu'en France, c'est vrai que selon les villes, selon les endroits, selon les fréquentations et selon l'âge, je pense que l'âge est une donnée très importante. Je pense que ce genre de code et de caractère s'estompe avec l'âge, et que je pense qu'une femme de plus de 30 ans, 35 ans, aura un comportement qui sera moins, disons, moins calculé et moins... que peuvent avoir certaines jeunes filles ou certaines jeunes femmes italiennes qui restent souvent sur des comportements assez sur la défensive et énigmatiques, je pense.
Merci beaucoup Mirko d'avoir été avec nous, de nous avoir parlé à la fois de cette double culture que vous avez, du football, de la séduction à l'italienne aussi. On vous souhaite une excellente fin de soirée et puis à bientôt sur France Bleu.
Merci beaucoup, à bientôt.
Vos témoignages, vos expériences. Ce soir, on se dit tout sur France Bleu.
J'ai un peu la pression là, avec l'accent italien quand je désannonce un titre comme lui. On parle de l'Italie ce soir sur France Bleu, et qui dit Italie dit bien sûr chanteur italien. On en connaît plein, on en adore plein. On peut citer Toto Cutugno, Zucchero, Umberto Tozzi, Richard Cocciante, Paolo Conte. Mais il y en a un qui, quoi qu'il arrive, restera toujours un petit peu le chouchou des Françaises, c'est Eros Ramazzotti. On vient de l'écouter et on va en parler avec une vraie fan. Il s'agit de Sylvia dans les Bouches-du-Rhône. Bonsoir Sylvia.
Bonsoir Vanessa.
Ça vous fait toujours le même effet quand vous entendez Eros Ramazzotti chanter?
Oui, doublement effet, je dirais.
Doublement? Ça vous fait quoi alors?
Mais écoutez, bon, étant fan depuis ses débuts, on va dire, donc depuis exactement 84, c'est vrai que pour moi, quand j'écoute Eros, ça me prend les tripes, on va dire que ça comme ça. Et voilà, c'est un de on va dire, c'est un des plus grands chanteurs, c'est un de mes chanteurs préférés, disons, voilà.
Vous avez un petit accent, Sylvia, vous êtes un peu italienne aussi?
Aussi.
Ah oui.
Oui. D'ailleurs, j'ai découvert Eros en Italie à tous ses débuts. Alors bon, il est arrivé en France en 85, mais Eros a commencé donc bien avant, en 85. Et c'est vrai que j'ai eu la chance donc de le découvrir avec sa chanson Terra Promessa, qui était sortie donc en 84 en Italie. Et voilà, et puis là, j'ai eu vraiment le coup de foudre à l'époque. J'étais bien sûr ado. Je dirais pas mon âge, parce que ça fait déjà quelques années, donc 84, mais j'étais ado. Et puis là, et j'ai suivi sa carrière mais jusqu'à maintenant. Hein.
Et c'est mignon parce que quand vous parlez de lui, vous dites Eros comme si c'était un copain, quelqu'un de la famille.
C'est vrai. Alors c'est vrai parce qu'entre fans, effectivement, on l'appelle Eros. Et encore, je vais vous dire, je vais faire une confidence, quand on le connaît très bien, on l'appelle Zio, l'Ozio, l'Ozio Eros.
Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, l'Ozio?
Ben, c'est le tonton. L'Ozio en italien, c'est le tonton. Et donc, quand on l'approche de très près, on l'appelle l'Ozio. Zio Eros.
D'accord. Et tonton, voilà, donc, tonton Eros.
Voilà, le tonton Eros. Mais c'est vrai que entre nous, entre fans, on dit Eros. On oublie le Ramazzotti, qui est donc le nom de famille. Mais Eros, ça reste, voilà, cette appellation-là.
Alors, en France, j'ai regardé, il n'y a pas de fan club officiel d'Eros Ramazzotti, mais vous faites partie d'une communauté, on va le dire comme ça, sur Facebook, notamment.
Tout à fait, oui. Donc, il y avait, à l'époque, il y avait le fan club d'Eros, donc à Milan, qui aujourd'hui a pris beaucoup plus d'ampleur, puisque maintenant, avec les réseaux sociaux et Facebook, entre autres, il est vrai qu'il y a une page officielle d'Eros, qui est donc tenue par un de ses meilleurs amis. Alors, je ne sais pas si je peux dire le nom, mais c'est Kiko Vagni, et dont j'ai eu j'ai le privilège d'être en contact et pour l'avoir rencontré également. Et je vous cacherai pas que j'ai également rencontré Eros, donc et là ça a été le
rencontrer en vrai de vrai, face à face.
Oui, après quelques années, je dois dire, on va dire de galère, puisque c'était pas évident non plus.
Qu'est-ce qu'on dit quand on se retrouve face à la personne qu'on aime et qu'on admire depuis qu'on est adolescente?
Je vais vous dire, pour la vérité, pas grand chose, parce que vous avez le cœur qui vous bat à 100 000 km/h, et puis, en fait, c'est plus lui qui a cette approche-là, c'est un homme normal, et puis il vous prend même dans ses bras, il vous fait une caresse, il est vraiment, c'est vous-même qui êtes, en fait, moi, je sais que j'ai été perturbée, et je suis restée de marbre, quoi. J'ai pas pu dire grand chose. J'aurais voulu lui dire beaucoup de choses, mais en fait, c'était impossible, parce que déjà de lui-même, il n'a pas eu le temps, mais ça a été...
Mais c'est un beau moment quand même. Hein.
C'est un très beau moment qui me reste gravé pour toujours. Voilà.
Et il en est où là, Eros Ramazzotti, dans la musique? Il a sorti un album récemment, moi je ne suis pas très très au fait, mais vous allez tout nous dire en fait.
Alors, son dernier album, donc, c'est Perfetto, qui est sorti il y a 2 ans. Et là, au bout d'une très très longue tournée qui s'est achevée, donc, le 20 décembre 2016 à Milan. Donc là, maintenant, il se repose en famille. Mais là, d'après ce que je sais, il prépare son retour. Bon, pas immédiatement, bien sûr, mais il commence à travailler sur son nouvel album qui sortira certainement d'ici 2-3 ans, peut-être.
Pas mal.
Mais là, je dois dire que le tour Perfect a été très très long, avec des centaines de dates à travers le monde, et c'est vrai que, dont 2 dates qui a été fait, 2 concerts qui ont été donnés, donc, en France, Paris et Marseille.
Et vous y étiez, j'en suis sûre.
Et j'y étais, oui.
Ah bah oui, quand on est fan.
Et puis c'est là que j'ai eu donc le privilège de le rencontrer à Marseille.
À ce moment-là, d'accord.
Voilà, à Marseille et d'avoir assisté aux répétitions, voilà. Donc,
Sylvia, qu'est-ce qu'on se dit entre fans d'Eros Ramazzotti quand on se retrouve sur un groupe, une page de fans? On parle de quoi? Des souvenirs, des chansons? On s'échange des photos? Racontez-nous.
Ben, on s'échange des photos, certainement les premiers concerts. Alors bien sûr, on va dire les fans de la première de l'avant-garde, de la première garde. Donc on se dit à quel moment on a pu faire le premier concert. Donc tout ça, on s'échange les photos, les premières photos de concerts. On évite la vie privée parce que ça reste après, on va dire, récurrent, parce que c'est sa vie privée à lui. Donc moi personnellement, je sais que c'est pas trop mon truc. Moi, c'est plus la base, la musique qui m'intéresse. Mais c'est vrai que on essaye de s'échanger, surtout si on a eu la possibilité de le rencontrer. Voilà, tous ces moments.
Non mais attendez, moi je vous coupe 2 secondes, Sylvia. Vous dites c'est plutôt la musique qui m'intéresse. Il est quand même plutôt beau gosse aussi, Eros Ramazzotti. Ça aide, non?
Alors, je dis pas le contraire. C'est vrai qu'il est beau gosse. Bon, bien sûr qu'il a du charme, il a du charisme, il a une voix, bon, elle est unique, sa voix, hein, un peu nasale, bon. Mais oui, alors je parle de sa personne, oui, bien sûr qu'il est beau gosse. Mais ce que je veux dire là, c'est qu'après, bon, par rapport à sa vie privée, c'est vrai qu'entre nous, on n'en parle pas trop. Alors, il est vrai que, bon, là, je sais qu'il a eu deux autres enfants, donc c'est vrai que ça nous touche énormément. Voilà, le petit dernier qui est né, qui va faire d'ailleurs 2 ans, bon, ça nous touche quand même, hein, sa vie privée, on ne dit pas le contraire. Mais c'est vrai qu'on est toujours, comment dire, on se languit qu'il sorte son prochain album, voilà.
Oui.
Et c'est vrai que bon, et puis en attendant la sortie de son prochain album, eh bien, on se remémore les rencontres qu'on a pu faire durant les concerts, parce qu'après on se retrouve entre fans. Alors il m'est arrivé d'avoir fait donc des concerts en Italie, entre autres, Milan, Rome, et c'est vrai que bon, ben là, on se téléphone même en privé entre fans italiens, et puis on se remémore tous ces moments-là, en attendant de se retrouver sur une prochaine
tournée, par exemple.
Voilà, c'est ça.
Merci beaucoup, Sylvia, d'avoir été avec nous. Vous en parlez drôlement bien, d'Eros Ramazzotti.
Ah ben, merci beaucoup.
De tonton Eros, comme j'ai retenu.
Oui, Zio Eros, tout à fait.
Merci beaucoup, Sylvia.
Merci beaucoup. Merci à vous, Vanessa. Et puis, un gros bisou à tous les fans d'Eros.
Voilà. Et on était ravis de terminer cette émission avec vous, Sylvia. À très bientôt et bonne soirée dans les Bouches-du-Rhône.
Bonne soirée, Vanessa. Merci.
Au revoir.
On se dit tout sur France Bleu, Vanessa Lambert.
Et oui, un petit air d'Italie encore pour refermer cette spéciale On se dit tout. C'était vraiment très chouette ce voyage en Italie grâce à vous. On se retrouve maintenant dès lundi pour une nouvelle semaine de confidences. Lundi, nous parlerons des prénoms, votre prénom ou celui de vos enfants. Mardi, place au sport, au bien-être, prendre soin de soi. C'est ce que fait depuis quelques années le coach sportif Erwan Manteour. Eh bien, il sera avec nous pour en parler. Mercredi, c'est la journée internationale pour le droit des femmes et on va parler de ces droits qui sont parfois bafoués à cause de violences conjugales, d'inégalités salariales, de viols, d'insultes, de réflexions désobligeantes, de discrimination. C'est la réalisatrice Lisa Azuelos qui sera notre grand témoin. Et puis jeudi, nous serons en train de parler de couple et d'infidélité. Est-ce qu'on peut vraiment s'en remettre ? C'est le docteur Christophe Fauré qui sera avec nous pour écouter vos histoires. Voilà pour le programme de la semaine prochaine. Je vous souhaite une excellente soirée. Et dans un instant, c'est Eric Bastien avec le top France Bleu. À très vite.